Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est aujourd'hui la journée internationale des migrants. Dans le monde, un peu plus de 270 millions de personnes vivent actuellement hors de leur pays d'origine. Le phénomène des migrations est alimenté par les difficultés et les crises économiques, les événements politiques, les guerres civiles et de plus en plus souvent par la crise climatique. En Europe, ce que l'on appelle la crise des migrants depuis 2015 a semé le trouble et la division entre les pays qui ont du mal à gérer ou tout simplement à accepter le flux. Hier encore, le président turc le reprochait à l'Union au cours du premier forum mondial des réfugiés à Genève. Migrants, un consensus européen est-il possible? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous ce soir. Clotilde Varin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse en charge des migrations pour le think tank Confrontation Europe et vous avez coécrit l'article « Comment l'Europe fabrique des migrants » dans la revue 21 et par téléphone pour l'instant, car vous nous rejoignez. Jean-Christophe Dumont, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de la division des migrations internationales à l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. Vous nous rejoignez car les auditeurs de RFI ont bien compris que c'était un petit peu compliqué de circuler à Paris depuis une quinzaine de jours. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a profité de son passage à Genève hier pour lancer de nouvelles piques à la communauté internationale sur la question des réfugiés. Au-delà de ces menaces d'ouvrir les portes de l'Europe aux migrants, il pointe quand même de vraies contradictions européennes sur cette question, donc Clotilde Varin.
Alors, Erdogan, justement, depuis mars 2016 et la signature de l'accord UE-Turquie a en quelque sorte une sorte de, comment dire, de...
Une délégation ?
Non, mais il a en lui une force, enfin, il peut mener des formes de chantage. Des formes de chantage dans la mesure où régulièrement, mais j'allais dire comme Kadhafi le faisait à l'époque avant 2011, il peut dire je vais ouvrir les vannes si vous ne me donnez pas l'argent dont j'ai besoin. Et il ne se prive pas de le faire, et notamment encore récemment, parce que c'est ça. Mais ce que je veux dire sur cette histoire, c'est qu'on peut aussi se poser des questions, si on vient là-dessus, sur la politique migratoire européenne.
Oui, c'était le sens de ma question, d'ailleurs. Il y a des contradictions internes, quand même.
Et ce choix-là, tout particulièrement, si on reste sur UE-Turquie, mais après, j'aimerais bien aussi parler, évidemment, de l'asile, mais de la question de l'externalisation. C'est-à-dire, est-ce que l'on peut confier la gestion de nos frontières extérieures à des États comme la Turquie ou à des pays tiers comme le Soudan, le Niger, ce que l'on fait dans le cadre de cette politique d'externalisation.
Alors vous faites les réponses et les questions, mais je vais vous quand même vous reposer la question. Payer pour externaliser la gestion des migrants dans des pays voisins, ça a été le cas aussi d'ailleurs en Libye à un certain moment. Est-ce que c'est une politique qui est viable à moyen ou long terme, selon vous ? Alors que Jean-Christophe Dumont nous rejoint, bonsoir.
Bonsoir. La question, justement, est celle-là, c'est jusqu'à quand mettra-t-on la question du frein migratoire qu'est-ce qu'on est prêt à accepter si on pense que c'est la priorité absolue? Vous prenez l'exemple de la Libye, je voudrais rebondir là-dessus. On peut aussi se poser des questions sur pourquoi l'Union européenne finance les gardes-côtes libyens, garde-côte que l'on sait commettre des exactions dans des centres de détention, qu'ils soient officiels ou non.
Des violations des droits humains. Enfin,
les migrants, voilà. Donc c'est en effet cette question essentielle de l'externalisation. Mais vous l'avez aussi très bien dit au départ, il y a cette question depuis 2015 et depuis donc, ces chiffres qui ont fait peur et qui ont été beaucoup relayés dans le média, donc du million, si je puis dire, à l'époque de la crise dite des réfugiés de 2015, où on a eu au sein de l'Union européenne, il y a eu cette approche sécuritaire d'abord de la question des migrations. On pourra en reparler aujourd'hui aussi. Est-ce que avec Ursula von der Leyen, est-ce qu'on est sur une tendance nouvelle? Qu'est-ce que signifie ce nouveau pacte sur les migrations et l'asile? C'est une question.
On va en parler, effectivement. Jean-Christophe Dumont, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Effectivement, depuis 2015, la question des migrations, elle est surtout abordée en Europe d'un point de vue sécuritaire. D'un point de vue économique, on lit parfois des choses un peu différentes, mais j'ai quand même lu que les migrants apportaient économiquement et ne coûtaient pas si cher que ça aux pays qui les accueillent. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Qu'est-ce que vous en pensez?
Bien entendu. Enfin, d'abord, le premier point, c'est peut-être qu'effectivement, il ne faut pas résumer cette question des migrations à celle de l'asile et des réfugiés. Parce que même si effectivement ça peut être été l'élément le plus visible dans les médias ces derniers temps, traduisant des situations humaines particulièrement dramatiques, jusqu'à évidemment des décès en très grand nombre dans la Méditerranée. La plupart des migrations se font de manière sûre et ordonnée. Quand on regarde les flux vers l'ensemble des pays de l'OCDE, les réfugiés ne représentent pas plus de 15% des flux. 40% sont des migrants familiaux qui viennent rejoindre leur famille. Environ 13-14% sont des travailleurs qui donc changent de pays pour répondre à nos besoins de main-d'œuvre, qu'ils soient qualifiés ou peu qualifiés. Et donc, quand on prend la migration dans sa globalité, évidemment, on perçoit tout de suite que, évidemment, elle est beaucoup plus diversifiée qu'elle n'apparaît dans l'image médiatique, et aussi qu'elle contribue économiquement, très clairement. C'est une majorité de migrants dans les pays de l'OCDE qui sont employés, environ 60%. C'est un petit peu moins que les résidents, que les natifs, parce que parmi ces migrants, il y a des gens qui ont un certain nombre de vulnérabilités, qui, par exemple, ne maîtrisent pas la langue du pays de destination, qui peuvent avoir subi des traumatismes dans leur parcours migratoire quand il s'agit de réfugiés, qui peuvent être victimes de discrimination. Mais globalement, les migrants sont comme tout un chacun, ils travaillent et ils contribuent à l'économie.
Clotilde Varin, il y a donc des désaccords entre Européens sur la question des migrants. Entre quel pays et sur quel point principalement? Où est-ce que les Européens sont en désaccord entre eux?
Alors, donc du coup, moi, je vais revenir sur, en effet, on l'a très bien noté, c'est évidemment une part infime, mais je reviens sur la question de l'asile et donc des demandeurs d'asile, parce que c'est ce paquet-là, ce qu'on appelle le paquet asile, qui est bloqué au Conseil de l'Union européenne depuis 3 ans. C'est-à-dire que depuis 3 ans, il n'y a pas eu de vote. Il y a la volonté de réformer ce qu'on appelle le règlement de Dublin, qui est déjà à sa 3e version. Et donc, la 4e version est en marche, en tout cas, en réforme.
Alors, vous allez nous expliquer ce que c'est, peut-être? D'abord, que le règlement de Dublin?
Oui, bien sûr. Donc, le règlement de Dublin, c'est donc cette loi européenne, règlement, qui identifie le pays de première entrée comme pays qui doit examiner la demande d'asile du nouvel arrivant. Donc, pays de première entrée, c'est évidemment le pays qui est aux frontières de l'Union européenne, donc Grèce, Italie, Espagne, Malte, Chypre, enfin, si je vais aussi sur les plus petites îles un petit peu plus lointaines. Donc, ça a d'emblée posé un problème, ça a fait exploser le système. Tout le monde s'accorde aujourd'hui à dire que le règlement de Dublin ne marche pas, qu'il faut le transformer, qu'il faut le réformer.
C'est totalement déséquilibré, c'est ce que vous êtes en train de dire.
Et c'est inéquitable. Les deux mots phares de Juncker, donc le président de la Commission européenne sortant, c'était solidarité et responsabilité. Devaient être les maîtres mots, justement, de cette réforme de l'asile. Cela a été un échec patent, à tel point qu'au dernier Conseil de l'Union européenne, en mars 2019, il a été choisi sciemment par les chefs d'État et de gouvernement de ne même pas mettre la question de l'asile à l'ordre du jour. Donc c'est un paquet bloqué, mais sur plusieurs propositions, notamment Dublin, les procédures d'asile également, mais c'est remis à l'ouvrage par la présidence finlandaise en ce moment.
À côté de ça, Jean-Christophe Dumont, il y a des filières d'immigration qui sont totalement légales et maîtrisées et qui fonctionnent pour l'intégration des migrants.
Oui, absolument. Alors bon, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des choses qui puissent être améliorées.
Il y a des choses qui peuvent se faire,
ici ou là. Et on a des pays au sein de l'OCDE et dans l'Union européenne en particulier qui ont mené des réformes relativement importantes de leur politique migratoire légale de travail, par exemple l'Allemagne récemment. Et Et donc, évidemment, c'est un élément important, mais qui a aussi une dimension européenne. Mmh. Hein, parce que c'est vrai que les questions migratoires sont bloquées dans les discussions européennes à cause de ces questions autour du droit d'asile, du règlement de Dublin et plus généralement, finalement, de la question du partage des responsabilités et du fardeau financier. Mais l'Union a aussi des compétences en matière de gestion des migrations légales et donc autre dossier bloqué par effet domino concerne par exemple la fameuse directive carte bleue pour les travailleurs les plus qualifiés que l'Europe cherche à attirer et dont elle a besoin, mais également un certain nombre d'autres réformes sur les politiques d'immigration légale. La Commission par exemple a mis en œuvre des projets pilotes qui cherchent à créer des nouveaux canaux d'immigration légale de travail là où il y a des besoins en Europe de façon bilatérale. Mais finalement, peu de pays se sont portés volontaires. Ces projets sont extrêmement réduits. Et c'est toute l'approche, disons, européenne de la question migratoire qui est aujourd'hui bloquée du fait de cette impossibilité de se mettre d'accord sur les questions d'asile.
Alors, c'est une question en fait très générale. Est-ce qu'il est possible d'avoir des politiques nationales sur les questions de déplacement de population, ou est-ce que ça devrait être traité au niveau européen? Parce que on entend quand même qu'il y a des pays qui veulent reprendre leurs propres prérogatives nationales. Qu'est-ce que vous en pensez l'une et l'autre? Clotilde Varin, d'abord, pour commencer.
Alors écoutez, sur cette question-là, c'est forcément une solution européenne. Et surtout, ce que je veux dire sur cette question donc de l'asile, c'est que ce qui bloque, ce n'est pas l'Union européenne ou Bruxelles, comme on l'entend souvent. Non, mais je tiens à le dire parce que c'est important.
Ce sont les pays. Hein.
Ce sont les États membres. C'est-à-dire qu'en fait, comment ça marche? Non, mais juste, la Commission européenne fait des propositions. Donc là, c'est la DG Home, quoi, disons, si je prends la question de l'asile. C'est après discuté au Parlement européen, amendé si besoin. Et après, c'est présenté au Conseil de l'Union européenne. Et là, ce sont les ministres. À la demande de leur gouvernement.
Et in fine, les chefs d'État et de gouvernement.
Et donc, les chefs d'État et de gouvernement qui vont ou non se mettre d'accord. Et quand vous parliez de pourquoi il y a des tensions, des divisions, ben, il y a cette division, parce que je voudrais juste revenir là-dessus, mais entre les pays de première entrée et les pays, entre guillemets, au milieu, enfin, centraux, qui ne sont pas touchés de plein fouet, parce que les premiers disent, nous, on a tous les nouveaux arrivants, et les autres, certains disent, de toute façon, ils ne veulent pas venir chez moi, donc est-ce mon problème? Et puis, il y a aussi cette division presque Est-Ouest, si je puis encore m'exprimer ainsi, entre pays de Visegrad autres pays. Donc ça crée de multiples fractures hein, au sein de l'Union européenne et cela crée un attentisme. Il y a vraiment des dossiers qui n'avancent plus.
Jean-Christophe Dumont, selon vous, la gestion des déplacements de population, elle est plus efficace au niveau national ou au niveau européen? Il y a différents niveaux qui doivent coexister?
Alors, je pense que c'est ça. La réponse est dans votre question. Il y a différents niveaux qui doivent coexister. C'est une responsabilité partagée. Celle qui concerne le nombre de personnes qui sont admises dans les pays d'accueil, c'est une responsabilité des États membres. C'est pas de la responsabilité de la Commission. La responsabilité de la Commission, elle a plutôt trait à, l'uniformisation des règles, la définition d'objectifs communs, voire d'instruments communs, par exemple sur la réinstallation ou par exemple sur la négociation des accords de réadmission avec les pays d'origine. Donc c'est quand même un partage des responsabilités qui est assez complexe et qui est différencié selon les sujets. Ce qui est sûr, c'est que l'Europe elle a un potentiel du fait de sa diversité. C'est un peu paradoxal, mais du fait de la diversité des économies, du fait de la diversité des liens qui ont été tissés historiquement ou géographiquement avec les pays d'origine.
Diversité linguistique aussi.
Diversité linguistique. Et, du fait de cette diversité, l'Europe, elle a un potentiel pour être, un acteur très puissant de sa politique migratoire. Alors même si la responsabilité in fine incombe, selon les traités, toujours aux États membres de décider qui ils accueillent sur leur territoire et combien de personnes. Il y a certainement, évidemment, à la fois des effets d'échelle et puis des, disons, des éléments de la solution qui sont au niveau européen. Et malheureusement, sur cette question de l'asile, aujourd'hui, il y a un blocage total.
Clotilde Varin, est-ce que, pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore trouvé de clés et d'accords de répartition des migrants entre les pays européens? Est-ce que c'est en bonne voie? J'entends parler de progrès qui, récents, mais qui ne sont pas encore concrétisés.
Il y a des progrès, de forts progrès, notamment grâce à la présidence finlandaise, là, qui est en train de se terminer. Il y a une proposition allemande qui a été mise sur la table. Donc, il y a vraiment cette volonté d'avancer. Après, est-ce que les solutions vont plaire à tout le monde? Là, il est question donc de mettre des, ce qu'on appelle des centres contrôlés aux frontières extérieures de l'Europe où seront examinées les demandes d'asile. C'est la dernière proposition, là, proposée par l'Allemagne au G6. Il y a ce tour d'Europe qui est fait dans les capitales européennes par la nouvelle commissaire, Ylva Johansson, une Suédoise assez volontaire, et Ursula von der Leyen qui a dit qu'elle allait annoncer son nouveau pacte en février ou mars.
On va en parler, mais je reviens avec vous, Jean-Christophe Dumont. Une immigration choisie, c'est ce que vous nous expliquez, hein, au niveau national pour les migrants, notamment pour le travail. Est-ce que ça vous paraît possible compte tenu des problèmes qui poussent les gens sur les routes de la migration, la pauvreté, la guerre, le climat? Est-ce qu'on peut vraiment aujourd'hui dire en Europe on va choisir nos migrants alors que bien ils sont à nos portes et que ils n'ont eux pas vraiment choisi de quitter leur territoire?
Je poserai pas tout à fait la question comme ça, comme on le disait tout à l'heure, près de la moitié, 40% en fait, de la migration vers les pays de l'OCDE et vers l'Europe, c'est les mêmes chiffres, c'est de la migration familiale. Alors c'est là des gens qui rejoignent leurs conjoints ou qui ont été choisis effectivement par des personnes dans les pays de destination avec lesquels ils vont se marier, mais c'est pas une migration choisie au sens économiste et économiciste du terme. La migration, elle se fait en réponse à des situations individuelles, mais aussi par rapport à des besoins de main-d'œuvre. Aujourd'hui, dans les pays, dans la plupart des pays européens, dont la France, c'est les employeurs qui choisissent, c'est les employeurs qui décident finalement d'offrir un contrat de travail à quelqu'un qui réside dans un autre pays et donc par ce biais de lui permettre d'obtenir un permis de résidence. Si vous voulez, c'est une situation compliquée où il n'y a pas forcément, aucun acteur n'a toutes les clés, que ce soit le pays d'origine, le migrant lui-même ou le pays de destination. Ce qu'il faut, c'est que les canaux qui permettent aux gens de transiter de façon légale et régulière soient existants et, disons, en cohérence avec la nature des besoins. Donc typiquement, le regroupement familial, quand on parle des réfugiés, dans beaucoup de pays maintenant, l'octroi de la protection temporaire ne permet plus au regroupement familial. Voilà un exemple qui peut être tout à fait au détriment, disons, des risques que les gens vont prendre pour pouvoir rejoindre les pays de destination. Donc cette migration, elle est choisie, mais elle est choisie de par l'ensemble des parties prenantes.
Clotilde Varin, il nous reste quelques secondes, hein, pas beaucoup en fait. Le phénomène des migrations n'est pas prêt de s'enrayer, les crises économiques, les guerres, le climat. Est-ce qu'il y a urgence à avoir une politique migratoire claire et acceptée par tous en Europe ?
Oui, il y a urgence et il y a urgence à harmoniser cela au niveau européen et à trouver un accord et... pour résoudre cela, notamment à faire en sorte que le règlement de Dublin devienne un véritable outil de répartition, ce qu'il n'est pas pour le moment, et c'est pour cela aussi que ça pose problème.
Merci Clotilde Varin, merci Jean-Christophe Dumont d'avoir participé à cette émission. Je vous rappelle l'existence du site infomigrant@.net, qui est un site qui fournit des informations fiables et vérifiées aux personnes concernées ou intéressées par la migration, site proposé par le groupe France Média Monde, auquel appartient RFI, la Deutsche Welle et l'agence italienne ANSA. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce à la coordination, Charles Mamère à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Valentin Vanner. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles. Participez également au débat sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous. Appel sur